Fait que je suis juste comme un petit peu nerveux. Okay. Fait que je vais faire la présentation, mais je veux juste comme que tu saches que je suis un petit peu nerveux. Fait que ça se peut que ce soit, ça jitter un peu. Puis en tout cas.
Imagine que t'es moi. Ouais.
C'est bon. Okay, c'est bon. OK, bonsoir et bienvenue à Critique Exquise. Ce soir, nous sommes en compagnie de Pascal Grenier.
Oui. Bonsoir.
Et de Tommy Godette.
You bet.
Et de moi-même, votre hôte pour ce soir, Bruno Corbin. Bow. Je prends le contrôle de l'émission. Et puis, parce qu'on me l'a donné.
Oui.
Donc, oh, voilà. C'est pour ça que
les bras meurtris tendaient le flambeau à toi de l'animer bien
haut. Fait que toi et Tommy, depuis la dernière fois qu'on s'est jasé, qu'est-ce qui s'est passé?
En fait, on est allé chercher une bière dans la cuisine et je me suis rappelé qu'on a fait le marathon des bougons.
Ouais.
Ça, c'est quelque chose que je pense qui mérite un petit peu de temps d'antenne, là, mais au musée de l'absurde, une fois de temps en temps, on fait des marathons. Je sais pas pourquoi ça a commencé à s'appeler comme ça. Ça dure quand même longtemps. Je serais plus capable de faire les 20 films de Pokémon d'affilée, là, des affaires de 30 heures. J'ai la patate qui débat après ça. Là. Je suis rendu trop vieux pour cette merde. Mais on a quand même fait les bougons qui étaient beaucoup plus longs que je pensais parce que moi, j'ai juste vu première saison, 13 épisodes. Là, j'ai checké. Ah, il y a 3 saisons. J'ai fait 3 fois 13, 39 épisodes.
T'aurais pu t'arrêter après 13 minutes aussi, puis c'était correct. Je pense que t'avais vu.
Check l'autre, il aime pas ça. Lui. il aime pas ça. Ouais. Non, mais en fait, moi, j'ai été très surpris par la série. Je pensais que c'était pour être... comment je pourrais dire? Je suis un gros fan des Trailer Park Boys. Je les ai écoutés toute la gang. Je savais que ça existait, les bougons, mais j'avais vu un bout, puis c'est le bout que Michel Rivard, il dit « Les pauvres, ça rend les affaires lettes. » Fait qu'il n'y a pas question que je donne ce beau divan-là à un pauvre qui va le rendre lettre. Puis je me rappelais que Je trouvais ça weird que ça passe à Radio-Canada, ces affaires-là. Puis je trouvais que ça dénotait comme une certaine ouverture d'esprit, mais je reconnaissais encore une fois beaucoup les Trailer Park Boys là-dedans.
Ouais, ouais, ouais.
Puis je sais pas si vous connaissez les Trailer Park Boys. Moi, je pense que c'est une des meilleures téléséries ever. Genre, là, je la mets dans mon top 20 facile. Et je pensais que c'était beaucoup plus calqué là-dessus que ça.
Ouais.
Et finalement, c'est plus comme. Je dirais à rigueur, c'est un comic book. T'en parlais la semaine passée. Je tombe un petit peu dans la. Mais on dirait que les épisodes, c'est vraiment comme une BD qui se lit. Peut-être pas moins les plans, mais de la manière que les idées sont apportées, que les personnages sont construits. Les archétypes sont forts, sont rapides. Souvent aussi, comment je pourrais dire, la caméra a raison sur ce qui se passe ailleurs.
Ouais.
J'ai beaucoup aimé ça. J'ai trouvé que Papa Bougon, j'aimais ça, l'idée que c'est un petit peu comme Harry Seldon des fondations, genre de Isaac Asimov.
OK.
Tu sais, dans le sens que on n'avait jamais à paniquer parce qu'il y avait tout le temps comme un plan B d'une société ailleurs qui marchait puis tout. Puis je trouvais ça le fun au final comme rendu. Je trouvais aussi que ça créait une grosse différence par rapport aux Trailer Park Boys qui sont comme tout le temps en train de se sortir de la marde puis de se passer de la marde. T'sais, leur vie, c'est de la marde, les Trailer Park Boys. Mais là, c'était plus comme... volontaire, puis ils sont comme tout le temps en train d'avoir besoin d'argent, mais ils s'achètent jamais rien de beau, puis c'est leur manière de vivre. Et tu sais, à un moment donné, il dit ben là, c'est juste un petit 5 000. Puis tu sais, il y a personne que je connais qui a 5 000 piastres de liquide, là. Eux autres, ça y va de même, tu sais, prends ça, va-t'en, puis tout. Puis aussi, non, mais voilà, là, j'ai trouvé que la série montait super bien, qu'il y avait peut-être un petit peu trop à un moment donné de thématiques redondantes, que peut-être aussi il y avait une espèce de contraintes budgétaires de pas amener plus de personnages réguliers parce que tout le cast qui gravite autour de la famille comme Jérôme qui est au pawn shop, tu sais, Chabot le policier à un moment donné devient comme trop important justement parce que sûrement qu'il y avait une contrainte budgétaire de pas pouvoir agrandir le cast là, mais reste que j'ai eu beaucoup de plaisir et ce qui m'amène à parler rapidement du film de la série Bougon. La série c'était en 2003 2004 2005. Et en 2016, ils sont allés all-in et ils ont fait le le film du concept avec lequel Papa Bougon nous menace un petit peu tout le long. Tu sais que les politiciens, c'est les crosseurs en chef, puis si vous arrêtez pas, on va aller vous montrer comment ça marche. Et là, Papa Bougon se lance. Et d'ailleurs, ils ont fait fi de la finale de la dernière saison. Je sais pas si vous vous rappelez.
Moi, je l'ai pas vu, alors je peux pas...
Dernier épisode de 50 épisodes, parce que finalement, il y avait 50 épisodes. Dernier épisode, il y a une bombe, tu sais, il est à l'hôpital, le petit Asiatique qui s'est fait, Mao s'est fait tirer, parce que, tu sais, ils ont adopté un Asiatique, puis ils l'ont appelé Mao. c'est niaiseux. Puis là, ben, là, il se fait tirer, puis là, il est à l'hôpital, et ben, elle est, parce que finalement, c'est une fille, on apprend dans la deuxième saison. c'est vraiment niaiseux. Puis pendant qu'elle est à l'hôpital, toute la famille est là, puis ils voient, il y a la TV qui joue, que là, il y a les nouvelles qui prennent le dessus, oui, puis là, finalement, il y a des bombes atomiques qui tombent sur New York, Los Angeles, et finalement, oh, ben, ça vient jusqu'au Canada, parce que Toronto et Vancouver viennent de... Puis là, le Montréal explose. c'est fini de même, mais bon, ils ont fait fi de ça, et le film se passe que... au début, c'est le fun. Un des personnages les plus importants de la série, il a aucune ligne, il parle jamais, mais il est là dans pas mal chaque épisode. C'est le chien de la famille qui est vraiment cool. Et ils ont appelé le chien Ben Laden. Ça aussi, ça me fait vraiment rire. Parce que, tu sais, à cette époque-là, tout le monde courait après Ben Laden. Je sais pas. Puis, c'est ça, le chien, il meurt au début. Puis là, ils sont comme tous aux funérailles du chien.
Ouais.
Qu'ils ont payé un gros cercueil, puis tout, parce que le père, il l'aimait bien trop, son chien. Et le début est le fun, les personnages reviennent, ça flotte bien. Générique comme ça, avant c'était François Havard et l'autre gros cave, là, Jean-François Mercier, qui écrivait les textes. Et pour celui-là, il y a eu Louis Morissette de rajouter au générique. Et en tout cas, ça fait longtemps qu'il m'impressionne plus, mettons, lui, mais là, ça l'a rajouté. Peut-être que c'est lui, peut-être que c'est François Havard et Jean-François Mercier.
François a écrit l'épouvantable film aussi avec Patrick Roy qui s'en va en Haïti. Là, c'était assez exécrable. Merci. Ça, là.
C'était quoi ça?
Non, pas celui-là.
C'était bon, ça, Guy Bars.
Celui-là, c'était correct. C'était de Philippe Falardeau, mais il en a fait un autre. Je me souviens plus du titre parce que je l'ai oublié. Là,
okay. Ça fait c'est une bonne raison que tu te souviennes plus de quelque chose.
Ça fait longtemps que François Havard, mettons, qu'il a dégringolé dans.
Ouais, c'est plus comme avant. Ouais. C'est sûr. Ben, même, je veux dire, Jean-François Mercier aussi, j'ai pas le plus grand respect pour son œuvre. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à l'origine, c'était deux gars trash qui allaient all-in puis qui faisaient dire des affaires à Radio-Canada, à notre TV nationale, que je pense pas que ça va rejouer, je pense pas que ça va se redire. Tu sais, il est arrivé un contexte, sûrement que les Trailer Park Boys aussi, parce que eux autres, c'était du Canada anglais. Mm-hmm. C'est sûr que ça a aidé. Là, ils disent « fuck » une fois par phrase pendant une demi-heure de grand public. Là, fait que moi, je pense en fait que... Je sais pas ce qui est arrivé, Chris. C'est ça que je pense. Le film devient rapidement... tu sais, t'as vu le film de Brice de Nice?
Ouais.
Que le personnage est comme super flamboyant puis capoté, puis qu'à un moment donné, ça devient une histoire d'amour paternel, puis que là, il peut plus rien faire de folie, puis là, tu sais, voyons Christ.
Ouais.
Ben, c'est ça qui se passe. Puis Papa Bougon, tout le long de la série, il était comme en avance sur tout le monde, puis il y avait tout un plan B, puis une deuxième compagnie à quelque part, puis on n'avait jamais vraiment s'inquiéter.
Ouais.
Puis là, aussi, il devient comme le crosseur en chef, puis là, il arrête pas de dire « Moi, vous crossez, moi, blablabla, vous allez voir. » Puis il n'y a pas d'autre plan. Puis là, il devient morose. Puis là, tout le monde, toute sa famille le lâche parce que là, il est rendu qu'il fait partie du système.
Ouais. Mais le punch de la fin, c'est pas que finalement c'était ça son plan tout le long?
Non. Le punch de la fin, c'est que il y a les 20 dernières minutes du film, c'est des discussions avec sa famille qui vont le voir un en arrière de l'autre. Mais tu sais, gars, ton power trip d'auteur,
c'est les invasions barbares.
Genre.
Puis il faut pas que tu oublies que t'es en train de parler d'un des films qui a été coté parmi les pires films québécois des années 2010, là. Mais bon.
Les Voter Bougon.
Avec les Hot Gog et compagnie, là, il fait partie de ces films-là.
Mais la finale est vraiment. Le début est super bon, là. On reconnaît. Il y a une couple de blagues qui reviennent, qui sont cool.
Ça fait penser à Falardeau quand il est tiré sur les Elvis Graton pour faire les deux suites après, là. C'est juste un truc commercial. Mais Falardeau, au moins, il y avait des ambitions de tenter arrêter de faire ses films d'auteur.
Ben, c'est ça, lui, il a le budget pour faire de...
L'autre, c'est parce que, c'est quoi, il est allé chercher un chèque, puis c'est pas cassé le basic.
Okay. Ouais.
Ça se peut mettons que j'ai à conseiller les bougons à quelqu'un, tu peux skipper le film.
Ouais.
Puis je me rappelle, tout le monde m'ont dit ouais, tu peux skipper le film. Mais j'ai fait non, je vais toutes les écouter. Fait que, en tout cas, on s'en reparle quand tu vas avoir décidé d'écouter le film pareil.
Ouais.
Mais il y a des épisodes aussi, tout le monde dit que c'est assez irrégulier. Mais moi, j'ai trouvé que c'était très régulier. Là. Ouais. J'ai pas comme un épisode que j'ai fait ah, ouais, c'est le meilleur par rapport à un que j'ai fait ah, lui, il est plate en crise.
Ouais.
Ça a pas mal été régulier d'un bout à l'autre, selon moi. Fait que, ben, c'est pas mal ma parenthèse sur les bougons. C'est de valeur. Que
on a commencé le show avec une parenthèse.
Ouais.
Quand même. Longue parenthèse. Ouais.
Ouais. Ouais. Ouais. Ben, toi, t'as pas.
Moi, j'aime pas ça. Moi, j'aime pas ça. C'est une caricature.
T'as-tu peur?
Non, c'est juste, je trouve que tout est caricatural, tout est forcé. Il n'y a rien de. Comme toutes les jokes que tu dis à faire Mao Ben Laden. Moi, je trouve ça facile. C'est plus. Moi, ça vient pas me chercher, cette affaire-là. C'est juste.
C'est tellement
facile.
Je savais que le chien s'appelait Ben Laden, mais dans le film, dans la série, quand c'est Rémi Girard, parce que selon moi, c'est vraiment le meilleur rôle de Rémi Girard ever, là, même mieux que dans les films de Denis Arcand. Là, c'est même mieux que quand il serre la main à Samuel L. Jackson dans Le Violon Rouge. Là, même mieux que dans Minibus. Je pense que Rémi Girard, le personnage de sa vie, c'est Papa Bougon.
Ben moi, en fait, ça m'avait. Parce que je trouve que Les Bougons, c'est une adaptation des Lavigueurs, mais plus adapté au Québec.
Effectivement. Oh, c'est parce sûr qu'il y a beaucoup de Lavigueurs. La fille est cochonne, puis ben c'est ça pour manipuler.
Moi, c'est ça qui m'a surtout gossé. Puis je n'ai peut-être pas assez vu, comme je te dis, pour juger, mais moi, ça me semblait assez caricature facile. Mais bon, c'est pas mon genre de.
Et voilà.
Des mots, mais j'ai le droit. Mais t'as le droit d'aimer ça aussi.
Bon, ben, vous écrirez en commentaire si vous pensez que Pascal a le droit d'avoir une opinion.
D'ailleurs, aussi, on aimerait que vous nous écriviez si, à un moment donné, Pascal aime un film qui pourrait être comparé à du Tarantino. On aimerait ça que vous nous écriviez pour nous en parler parce que Pascal, faut qu'il reste constant et intègre par rapport à sa haine de Tarantino. Si jamais il aime un film qui est un peu tarantinesque.
Ah, ça, j'aime ça utiliser.
Ouais, parce que Tarantinesque. Toi, tu l'appelles comment? Tintin?
Tintin.
Bon, ben, ça dépend. C'est parce qu'il y a eu plein de mimes avec ça, là. Mais ouais, Tintin Tarantino.
Tintin Tarantino, c'est niaiseux. Fait que là, c'est quoi? On est-tu rendu au moment où on commence l'exercice de parler de.
On pourrait quasiment commencer à parler de. On parle des films ou des morceaux culturels qui nous ont les plus impressionnés.
Des dix dernières années.
Puis là, ben, j'avais pas l'intention de parler de ça en premier, mais pour faire un lien, dans ma liste, il y a Série Noire.
C'est vrai
qui est
que
c'est une autre série québécoise. Et puis qui est pas mal un des trucs que j'ai le plus apprécié dans les 10 dernières années personnellement en termes de production, peu importe de où ou de quoi ou de comment. Même je dirais que c'est comme c'est clairement la production québécoise la plus intéressante qui a été faite dans les 10 dernières années, je pense. Puis au-delà de être la production québécoise, blablabla, c'est quelque chose que je vois comme étant extrêmement exportable aussi.
Ben moi, j'avais lu que ça avait été
exporté. Ça l'a été exporté un peu, mais...
Peut-être des gens ont acheté le scénario, faire l'adaptation.
Mais moi, je pense que même la série québécoise comme telle, traduite, sous-titrée, visuellement, c'est vraiment très, très bien fait. Tous les acteurs sont bien castés. Puis, c'est tellement une bonne idée de série.
Ouais, vraiment.
Dans le sens où c'est quelque chose qu'on a. Tu sais, c'est facile là, comme prémisse de dire mes deux personnages, c'est des scénaristes. Fait qu'il faut que je les mette dans des. Mais c'est une super bonne
idée.
Puis
on va les jouer, nous aussi. Là, ouais, c'est weird dans la crise.
Puis, fait que c'est. Mais je trouve que c'est vraiment un coup de génie, cette série-là.
C'est à voir, définitivement. Ouais. Toi, Pascal.
Je l'ai pas vu.
Ah ben,
je te le conseille fortement. D'accord. Je le conseille fortement à ceux qui l'ont pas vu. Et ceux qui l'ont pas vu, si jamais il y a du monde qui nous écoute dans d'autres pays, parce que vous l'avez probablement pas vu,
ben écrivez-nous.
Écrivez-nous et aussi, en termes de, comme je disais, c'est une production québécoise qui est, c'est probablement la production québécoise la plus exportable que j'ai vue ma vie.
C'est
moi,
sûr. Puis même, je dirais, c'est peut-être mieux de l'exporter que de l'adapter, parce que l'hiver est comme un personnage important qui revient souvent, puis c'est plus facile à trouver au Canada ou au Québec qu'à ben d'autres places.
Il y a un super langage qui est créé dans cette série-là. Mon mot préféré ou mon expression préférée qui est sortie de ça, c'est un cross-tête.
Un cross-tête? Oui, c'est niaise. Marc Arcan. Personnage sans dessin, ça. Ouais, Pascal, je pense que tu vas aimer ça. Même toi, tu vas aimer ça.
Même toi, tu pourrais aimer ça.
C'est un petit peu Quentin Tarantino.
C'est un petit peu Tarantino, par exemple.
Bon, OK, j'aimerais pas. Tu rajoutes un autre nom que je déteste qui porte 4 lettres, signe ses films par 4 lettres. Est-ce que tu participes à ça? Ouais.
On parle de quelqu'un au Québec là,
attends.
Qui signe des affaires en 4 lettres. Attends un petit peu là. Est-ce qu'on peut avoir un deuxième indice?
Dans sa tête, c'est un génie là.
Gilmore, non, c'est plus que 4 lettres. Attends un petit peu. Pud.
Voilà.
Il
fait pas partie de.
Je veux dire, dans le sens où je pense qu'ils sont. Je pense pas qu'ils aient réalisé un épisode ils se connaissent tous, ces gars-là, là, mais. Mais non, il a pas réalisé un épisode de ça. Pods, en fait, c'était la série policière, là.
19-2
que j'ai pas regardé, qui paraît qu'il est très bien aussi, mais moi, j'ai vraiment beaucoup de difficultés à.
Moi, c'est ses films, là, surtout.
Ouais, ses films aussi, mais dans le sens où j'ai pas vu ses séries télé, fait que
je il a fait des bougons, il a fait beaucoup de bougons.
Il a fait beaucoup de bougons. Je pense qu'il avait fait aussi la série précédente, Minuit le soir. Il a fait quand même pas mal d'épisodes de ça. C'est une très bonne série québécoise, là. Minuit le soir, ça vaut la peine. Je dirais que l'affaire qui m'a le plus gossé de cette série-là, c'est que les personnages avaient beaucoup trop d'accès à des guns au Québec.
Au Québec. En fait, moi, je suis au courant. Là, peut-être que ça serait facile, avec 500$, de se trouver un gun à main.
Je parlais plus. Je sais pas. Peut-être. Effectivement, t'as raison.
On part, on essaye ça un moment donné. Gros party, on peut-tu finir, ça joue d'un gun.
Fait que j'ai commencé par ça, c'était pas ça mon plan, mais je pense que série noire, on peut commencer avec quelque chose de québécois, c'est le fun.
On parlait des bougons, c'est vrai. Là, dans le fond, on fait juste développer ici des affaires.
Je vais parler de Fabienne Larouche.
Fortier, c'était cool, des fois.
Bon, que ça a duré 30 saisons de temps.
Il va-tu avoir un punch de dévoiler sur sa relation avec sa mère? Dans deux saisons.
Oui, Fabienne Larouche, elle a des ghostwriters, mais il paraît qu'il faut pas le dire, mais oui, elle n'a. Bon, OK.
Y a tout le monde. Là,
scandale.
Scandale.
C'est à ton tour, choisis une affaire de laquelle tu veux nous parler.
Je sais pas trop, qu'est-ce que je pourrais parler.
Si tu veux pas, Pascal,
tu passes ton tour ou c'est ça qui est en train de savoir? Est-ce que tu passes ton tour? Tu passes-tu ton tour ou tu revires de bord?
Miroir. Moi, c'est plus les films parce que je regarde pas de séries télé.
Parle d'un film. Le segway, il est fait.
J'ai sorti juste des films, moi aussi. Puis d'ailleurs, série noire, c'est quoi? C'est 20 épisodes. C'est presque deux longs métrages.
Ouais.
OK. Moi, c'est ça, c'est un peu dur parce que j'ai comme fait le tour, mais fait le tour vite aussi. Fait que ça se peut que j'ai oublié des films que.
On va tout te pardonner. Puis, c'est quoi, Pascal?
De toute façon, je nommerai pas les 30 non plus.
Mais c'est ça,
je me suis arrêté à 30 films.
Pascal, moi je pense que tu devrais parler plus longtemps de combien de films tu vas parler, puis de ceux que tu as peut-être oublié, du film duquel tu veux parler aujourd'hui. Mais continue à nous parler des films desquels tu veux pas parler.
OK, on va parler de. En fait, je sais pas trop. Mettons qu'on y va avec. Ma découverte des années. Découverte des années 2010, c'est le cinéaste S. Craig Zahler. Avec ses trois films, avec Bone Tomahawk, Brawl at Cellbrook 99, et l'autre film que j'ai parlé dans mon top 10 qui est Drag Across Concrete. Donc c'est ma découverte, mettons, cinématographique, parce que le reste, si je check ma liste, c'est tous des réalisateurs que soit ils ont fait d'autres choses avant ou que je les connaissais, alors que lui, il est comme sorti out of nowhere. Puis,
j'ai pas encore vu Drag the Cross Country, là, mais les deux autres, c'est vrai que c'est très bon. Mm-hmm.
Très, très
sérieux. Surtout Brawl, là, c'est le fun. C'est un Christ de bon film, puis le héros est particulier. Là, tu sais pas s'il est cave ou intelligent. Ouais. Là, tu sais, mais finalement, je pense qu'il est intelligent, moi, mais j'aime ça quand que ça rajoute facilement des niveaux de lecture quand que ouais. tu te demandes.
Ben, j'aime parce qu'il prend beaucoup de chance au niveau de la narration, au niveau de sa construction dramatique. Il t'amène dans des. Le gars, c'est un excellent dialoguiste. Il t'amène dans des directions. La violence est souvent surprenante quand elle arrive, souvent des moments que tu t'y attends pas pendant. C'est comme des longs slow burns, mais vraiment avec des montées.
Puis il va pas comme, mettons, mettre un insert de nez qui explose. Là, il fait non, juste non, comme non, c'est une take, puis là. Un plan, là, on le voit, le nez qui casse ou quand il se bat dans la dans le corridor au début de Cell Block 99, là, contre le gardien noir, là, que là, il faut qu'il pète la gueule pour aller dans la prison plus creuse. Mm-hmm. Ouais. Moi, ce combat-là, je m'en tout le temps m'en rappeler. c'est comme filmer croche, là. Ils mettent comme autant d'attention sur le mur blanc que sur puis je trouve que c'était couillu, là.
Ouais, parce qu'il travaille souvent encore avec des scénarios quand même parce qu'il veut. Le gars, il est approché par Hollywood et tout, mais il veut. Il a vendu beaucoup de scénarios aussi. Le gars, il veut vraiment faire ses petits films à lui-même.
Wow. Ben, à date, tant mieux pour tout le monde. Là. C'est ça. Tant mieux, surtout pour Vince Vaughn.
Puis aussi, c'est un romancier à la base. Donc, il travaille beaucoup sur la structure. T'sais, il a commencé à écrire des romans avant d'aller vers le cinéma. Puis ça paraît aussi dans sa manière qu'il écrit les films.
Ça doit être une bonne
bref, moi, c'est ma découverte. Si on parlait d'une petite découverte.
C'est ça. J'ai pas vu Drag the Cross Concrete, mais comme tu disais aussi, c'est vraiment. Il est très, très fort en développement de personnages, en fait, je pense. Puis
il t'amène dans. C'est ça. Tu suis des personnages que. C'est ça. Tu vas suivre avec lui, mais ça prend pas nécessairement le schéma que tu veux voir. Surtout, prend plus de chance encore dans Drag Across Concrete, qui est peut-être son film le plus. Le plus ça se passe vraiment dans un court temps, ce film-là, l'action se passe. Puis tu suis comme deux personnages, les deux cops là, qui sont poignés genre dans une espèce de stakeout, là, de filature, puis ça dégénère, mais c'est ça, là, mais c'est vraiment intéressant parce que c'est ça, la manière aussi qu'il filme la violence aussi, puis ces trucs-là, c'est vraiment je pense qu'il y a une marque vraiment d'auteur que rafraîchissante dans le cinéma d'aujourd'hui. Puis là, il a vendu un de ses scénarios qui supposément que c'est un scénario de béton que ça fait comme 10 ans qu'il traîne à Hollywood, puis là finalement ça va être Park Chan-wook qui va réaliser. Donc là c'est le film que j'attends le plus. Je sais pas si ça va sortir en 2020, probablement plus l'année prochaine en 2021, mais c'est un western hyper violent, donc déjà western hyper violent Park Chan-wook, S. Craig Zahler.
Écrit par S. Craig Zahler.
Je pense que c'est.
Puis son premier film, Bone Tomahawk, c'est un western hyper violent aussi.
C'est vraiment, c'est ça qui vire vraiment dans l'horreur vers la fin, carrément. Fait que c'est ça aussi qui est. Donc, j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. Puis je sais qu'il est en train de faire aussi un film de avec encore Vince Vaughn. Je pense que c'est vraiment devenu son.
C'est son acteur fétiche.
Ça fait du
bien de voir Vince Vaughn, qui est quand même 6 pieds 5 aussi. Là. D'ailleurs, dans le film, c'est drôle parce que dans Brawl, un moment donné, il pose la question combien qu'il mesure, l'autre, il dit au moins 6 pieds 3. L'autre, moi, je dirais plus. Puis là, quand il repasse la deuxième fois, 6 foot 5. Puis c'est vrai qu'on l'a jamais vu dans des
comme ça. Il faisait le love interest de Jennifer,
La première fois qu'il a joué les méchants, c'était Domestic Disturbance, là, mais un petit film avec John Travolta.
Un thriller assez
générique et quelconque. Là. Il était correct, Vince Vaughn, mais après ça, il a tourné juste à peu près des films de mariage puis de Wedding Crasher.
Pas des comédies situationnelles.
C'est ça.
Je suis un poisson hors de l'eau.
Fait que je commence avec ça, je lance comme ça.
C'est cool.
Brawl, je l'ai faufilé dans mon top 30, je l'ai mis en 8e position. Les deux autres sont dans mon top 50, peut-être pas dans mon top 30, mais sont dans mon top 50.
Oh, c'est vrai que moi j'ai vu juste Bone Tomahawk puis Brawl, puis Brawl c'est pas mal supérieur. Ouais. Je l'ai mis moi aussi, S. Craig Zahler, dans mes réalisateurs préférés. Je pense des 10 dernières années, puis moi j'ai une liste, mais je ne sais pas si c'est des réalisateurs qui ont commencé dans les 10 dernières années. Moi j'ai pris les réalisateurs qui m'ont impressionné dans les 10 dernières années.
Moi je pense que tu devrais continuer à parler.
Ta
liste et du concept de ta liste.
Et j'y vais avec celui qui est comme dans les mini en dessous, là, tu vois.
Ouais.
C'est David Robert Mitchell. J'ai beaucoup aimé It Follows puis Under the Silver Lake. Ouais. C'est deux
films. Puis son
films,
premier film aussi.
Myth of the American Sleepover.
Je l'ai,
c'est trois films assez différents.
Ouais, ouais. Très différents. Puis
Ouais, lui aussi, j'aurais pu le mettre. C'est vrai que j'ai beaucoup aimé les trois films.
Moi, il était sur ma liste, effectivement, de personnes qui m'ont impressionné.
Il s'est capoté. Puis lui vient de commencer, par contre. Là, j'ai pas pris, mais son premier film, c'est genre 2012.
Ouais,
après
Non, c'est vrai qu'il a fait trois films comme S. Craig. Il aurait pu. T'as un très bon choix, Tommy.
Merci.
C'est parmi moi aussi mes découvertes.
On rentre pas trop dans les films encore, mais why not en même temps? Under the Silver Lake, ça fait mon top 10 des années 2010.
Ah ouais,
ce film-là. Je trouve que c'est un des films les plus ambitieux et les plus à la hauteur de ses ambitions que j'ai vu depuis vraiment, vraiment longtemps.
Je parle de niveau de lecture, il y en a vraiment
beaucoup là-dedans.
Hey, pourquoi qu'il pue? Le héros, ça revient tout le temps, ça change rien, il se pointe tout le temps.
C'est un autre film fallait comparer absolument Mulholland Drive, que je trouve que c'est carrément dans le champ. Mais sauf que, tu sais, faut toujours comparer, là. C'est ça qui est fatiguant un peu. Là,
mais là, tu parles des autres stress. Critiques moins hautes que nous autres, genre.
Ouais. Non, mais je veux dire, c'est parce qu'Under the Silver Lake aussi. Mais moi, Under the Silver Lake aussi était dans mes films favoris 2018.
Ouais.
Peut-être pas dans mon top 30.
Je comprends 2000, pas de la décennie.
Mais je veux dire que c'est quand même un film que j'ai beaucoup aimé. Puis que je trouvais qu'il avait été injustement. Je trouvais que les critiques étaient souvent.
Ben, c'est une affaire de femmes, là, genre. Que dans
ben
le
non,
sens
ben
que
ouais, ben, en fait,
les femmes
le monde...
sont prises pour acquis. Là, ben, c'est un pastiche de film noir.
Mais c'est ça le principe. C'est que lui, genre, comme il est tellement sexiste, puis tout est vu de sa perspective à lui. Puis le personnage est extrêmement sexiste. Au point où est-ce que quand il y a des filles qui gueulent après parce qu'il a fait quelque chose de pas correct, il commence à les imaginer en train d'y japper après, tu sais. Puis tu peux le lire de deux manières différentes. Tu peux le lire d'une manière qui dit le message du film, c'est que c'est ça. Ou tu peux le lire de la manière que je pense que le film essayait de dire. Il y a du monde sexiste de même, puis il passe dans le monde. T'sais, c'est pour ça que je pense qu'il pue aussi, là, genre comme tu peux lui donner tous les défauts que tu veux, ce gars-là, il peut quand même pas mal faire tout ce qu'il veut. Parce que
dans les parties VIP.
C'est ça, parce que genre il est beau, puis il est blanc, puis tu sais, fait que il peut
faire un peu comme Jean Leloup, finalement.
Ouais, c'est ça.
Je sais pas si Jean Leloup est sexiste.
Ça, je sais pas, mais il pue.
C'est ce qu'il dit à Pimentfort. Fait que, ben, je pense à toi, Bruno.
Ouais.
Ben, sinon, peut-être It Follows. Moi, c'est avec ce film-là que je l'ai découvert.
Effectivement,
moi aussi. C'est un j'ai film vu que... de mythe après.
Ouais.
Après ça, j'ai vu Under.
La première fois que j'ai vu It Follows, j'ai comme écouté le début, puis là, je faisais une autre affaire en même temps. Puis la deuxième fois, je l'ai écouté, je me rappelle, c'était un lendemain de gros party, puis juste avant de m'endormir, je suis tombé là-dessus, puis je n'ai pas été capable de m'endormir.
Ça a parti un peu la vague des hits.
Ouais, un petit peu.
Comme The Night aussi, qui est un autre film intéressant aussi.
Puis
c'est
hit.
Comme la menace. Ouais, non, mais ouais, ça c'est
non,
un peu moins bon.
Bon.
Ça c'est un peu moins bon. Mais l'autre, c'est la menace, c'est ça, ça elle vient de où et ailleurs.
C'est qui le méchant, où elle est rendue, ouais, effectivement. Ouais. C'est comme rendu que, mettons, avant, les héros, ils étaient isolés, comme dans Alien. Tu sais, c'est probablement Alien ou Dark Star qui ont commencé ça. Tes héros sont isolés. Dans Léviathan, on peut pas aller les aider. Event Horizon, c'est à côté de plus de Neptune. Mais là, c'est comme rendu que on est isolé, mais en civilisation, là, en société. Puis là, Chris, eux autres, ils peuvent jamais le savoir, c'est qui le. Puis j'ai trouvé ça tellement hot, l'idée que c'est tout le temps comme du monde habillé lettre, mais que. Tu sais, ça clash juste parce que la créature, elle comprend mal la civilisation qu'elle est en train d'essayer de digérer tranquillement parce qu'il n'y a pas de fin en vue. Là,
c'est
vraiment weird.
Il joue beaucoup avec les conventions. Il t'amène dans tous les sens. À un moment donné, il t'amène puis là, elle est comme attachée. Puis là, tu penses que finalement, ça va virer en torture porn. Mais non, il est pas mal plus intelligent qu'Eli Roth. Il fait pas ça, il fait autre chose.
Les effets aussi de It Follows, à un moment donné, sur la plage, la première fois que ses amis la rencontrent, le gars, il revole. J'ai trouvé que c'était bien fait. Là, ça avait pas le choix d'être en CGI, parce que c'était le vide qui donnait une tape. Puis c'était bien senti. En tout cas, ça m'a pas mal jeté à terre. Moi, ce film-là, c'était quoi, c'était 2016, là? C'est sûr que ça a fait mon top de cette année-là. Là. Fait que je pense qu'on peut laisser David Robert Mitchell de côté pour l'instant. Ouais. Mais sinon, tu parlais de convention. De non, ses meilleures années sont passées à de
côté. C'est quoi convention, ouais? C'est quoi tu parles?
Mais c'est, juste peut-être pour finir sur DRM. C'est que tu disais que It Follows, c'est un film qui traitait beaucoup de conventions sociales puis d'affaires comme ça, mais je pense que c'est un propos qui est revenu beaucoup dans Under the Silver
Lake. Je pense que c'est un cinéaste qui est très... qui est beaucoup plus thématique que narratif, là, dans le sens où c'est vraiment là que toute sa narration passe. Ça passe toujours extrêmement par le thème central de ses films. Puis le thème central de ses films, c'est souvent les conventions, je pense aussi. Ouais. Dans ces trois films qu'il a fait, c'est un thème très, très, très central.
Si on se fie au titre, sûrement Myth of the American Sleepover, c'est le film qui porte le plus à parler de conventions.
Ben, en tout cas, qui en parle de la manière la moins métaphorique.
Voilà.
C'est plus brut, maintenant. C'est...
Fait que Bruno, tu nous amènes à ton prochain item de ton top 10.
Ben oui, voilà. Si on parle de
ton top 2010 à 2020, mettons.
Ben, si on va rester dans notre personne qui nous a le plus impressionné, moi, c'est quelqu'un que j'ai découvert dans les années 2010, même s'il avait fait déjà du stock un peu avant. C'est Jeremy Saulnier.
Il est dans mon top. Il est en haut de Craig Zahler puis de David Robert Mitchell.
Moi, je trouve que Jeremy Saulnier, c'est pas mal le cinéaste qui nous a été offert par le cinéma américain dans les 10 dernières années, qui est le plus que la voix la plus poussée, pertinente, intéressante, originale, vraiment. Moi, Blue Ruin,
c'est mon préféré.
Je t'aurais dit que j'étais d'accord avec toi, sauf que j'ai beaucoup de bémol avec son dernier film Netflix.
Moi, j'ai beaucoup aimé ce film-là.
Ouais. C'est Hold the Dark.
Je comprends ceux qui ne l'ont pas aimé.
J'ai pas aimé ça, mais je pense que mes attentes peut-être étaient trop...
C'est ça. Je pense que il souffre vraiment de ça parce que Green Room était tellement solide, puis c'était tellement structuré, puis tout ça. Puis là, il a vraiment fait quelque chose de complètement différent avec Hold the Dark.
D'ailleurs, Green Room, on peut quasiment le rapprocher avec VFW.
Oui, effectivement, c'est un peu le même type de film.
Ça va plus loin, là. Je veux dire, ça reste moins série B. Je pense que c'est plus, il y a plus un travail de mise en scène, puis d'un travail moins de l'autre de faire plaisir, de se faire plaisir à lui-même.
Effectivement. C'est une des grandes forces de Jeremy Saulnier, c'est qu'il est vraiment bon pour tourner de la violence réaliste.
Oui.
Puis même si t'as pas trippé sur Hold the Dark, c'est sûr que la fusillade dans Hold the Dark,
scènes qui a été faite en 2018.
C'est vraiment un chef-d'œuvre de cinéma d'action, cette scène-là. J'adore tout ce qu'il fait, puis même je vais même dire que Blue Ruin, ça reste mon favori, probablement parce que c'est le premier que j'ai vu aussi.
J'avais pas vu Murder Party.
C'est grit en
esti. Je l'ai regardé Blue Ruin, c'est un film. C'est pour ceux qui l'ont pas vu, allez voir ce film. C'est un film de vengeance, mais c'est un film de vengeance réaliste.
Par défaut, là, le gars, c'est la personne que je veux le moins être de toute la vie. Là, c'est capoter l'aventure que la vie lui a offert. Là, le héros,
ce film-là, quand je l'ai vu, ça m'a rappelé le premier volet de la série de Vengeance. Ça m'a rappelé beaucoup...
Sympathy for Mr. Vengeance.
Une espèce de personnage un peu. Puis
beaucoup plus déprimant.
C'est pas de la violence, de la vengeance.
C'est pas cathartique.
C'est pas glorifié. C'est pas stylisé.
C'est fatal. Fatalement, il n'y a pas le choix. C'est vraiment bien monté. Ouais. Jérémy Saulnier, puis Green Room aussi, c'était plus de job de mise en scène, mais non, moi c'est Blue Green.
mais d'ailleurs, c'est ça ce que je dirais. Je finirais en disant que je pense que j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il va faire next. Parce que je pense qu'avec Hold the Dark, il a vraiment essayé quelque chose de différent. Puis je trouve que Hold the Dark, c'est peut-être, c'est pas son meilleur film, mais c'est peut-être son plus intéressant. Il y a plus de... Tu sais, les niveaux de lecture sont clairs puis sont très intéressants dans tout son cinéma, je pense.
Ouais, ouais,
mais dans
ouais.
Hold the Dark, il y a quelque chose qui... Ouais. Un petit peu plus profond
qui se passe. C'est pas c'est qui le méchant, c'est pas c'est qui le gentil.
Puis, ouais,
pas,
c'est ça. Fait que j'ai vraiment hâte de voir la suite. Jeremy Saulnier à suivre.
À suivre. Et bien qu'il y ait un nom en A-U-L-N-I-E-R, ouais. Ça n'a rien rapport avec c'est des ancêtres francophones. Là, voilà. C'est un restant. Je pense qu'il vient du Minnesota.
Oui, oui, oui. Totalement.
Ouais, c'est ça. Oh, d'ailleurs, c'est pour ça que Blue Rooms, il y en a qui l'ont comparé évidemment au Frank Owen à cause de.
Ah, ouais, Fred,
c'est ça, ces choses-là. Là. Mais bon, je pense que son cinéma est quand même assez différent des frères Coen.
Effectivement.
Ouais, peut-être moins de temps mort. moins de pellicules gaspillées à bon escient. Je sais pas comment dire. En tout cas, allez faire vos recherches et voilà. Merci beaucoup. Je pense qu'on plaisir. S'en va voir Pascal.
Oui.
T'en as-tu un autre?
Ben oui, j'en ai un autre. Ben j'en ai plusieurs. Non. Mais juste pour, je vais mettre l'emphase sur un film que j'ai mis en quatrième position.
De ton top 30?
Ouais, dans mon top 30. Ooh. J'ai mis en quatrième position. J'en avais déjà parlé et je reparle encore. C'est une saga indienne qui s'appelle The Gangs of Wazepur. Un okay. et deux. Film de 2011 ou 2012 peut-être. Ouais, 2012 peut-être.
Puis je pense que c'est, depuis qu'on parle de ça, c'est la première fois qu'on sort de l'Amérique du Nord. Là. On a commencé au Québec, après ça c'était aux States pas mal, mm-hmm. Puis là on s'en va en Inde.
Ouais, on s'en va en Inde. C'est un film de gangster de 5h20 là, en deux parties. Okay. Sur une de guerre entre deux clans, de vraiment dans un petit village, je me souviens plus.
Puis est-ce que partie, les gentils gagnent?
C'est les charbons, c'est la bataille du charbon.
Ah ouais, la bataille du charbon. Ouais. Hein.
OK.
Fait que c'est comme un film de gangster typique, mais avec deux gangs, mais échelonné sur 70 ans. Avec okay. les générations et tout. Fait que c'est hyper ambitieux. Ça commence avec une fusillade, un long plan séquence de genre 5 minutes. Le gars, il voulait. Puis, qu'est-ce qui est le fun là-dedans? C'est que.
Hey, t'es mis à la table en crise tes couilles quand tu commences ton long métrage avec ça.
Puis, fait que tu commences avec ça. Tu finis la première partie parce que le film était clairement conçu. T'sais, il ne pouvait pas faire un film de 5h20, ça ne tentait pas. Fait que c'est vraiment en deux parties parce qu'il y a comme un cliffhanger à la fin du premier, puis que là, on change d'époque, puis que là, ça va être l'autre qui va prendre la relève.
Et voilà.
Mais la deuxième partie a. Déjà, la première partie est excellente, mais la deuxième partie a blown away la première partie. Là. Ça, souvent, c'est pas le cas. Souvent,
effectivement.
Après ça, on sait juste, puis c'est ça, ce film-là, c'est magnifique. Il y a 36 chansons, mais aucun numéro musical. Ah. Il n'y a pas de danse, il n'y a pas rien. Là. C'est les chansons accompagnent le film, ils ont rapport avec le film, puis ça file avec le film. Fait que c'est un des films les plus ambitieux qui a été fait de l'histoire de l'Inde que j'ai vu. Moi, c'est mon préféré parce que je l'ai vu trois fois, même si ça dure 5h20. La première fois au Festival de Toronto, je l'ai vu back-à-back, j'étais blown away. Fait que voilà. D'ailleurs, cette année-là, c'est fou à Toronto parce que j'ai vu ça et j'ai vu mon deuxième meilleur film aussi que je vais tenir
pour la deuxième fois. Là.
J'ai vu mon deuxième meilleur film et mon troisième meilleur film.
Crème, grosse voilà, année.
Donc, ça a été une grosse année à Toronto. Ben ouais.
2011, Grenier, ouais. Il s'y reconnaissait. Ça veut dire que ça revient à moi, d'abord.
Ouais, mais attends, je vais aller aux toilettes.
OK, on fait ça, je pèse pas. Ah, mais en fait, Pascal, peux-tu me rappeler, s'il te plaît, le titre du film que tu viens juste de parler?
Gangs of Wazepur. Gangs of Wazepur, W-A-S-S-E-Y-P-U-R, c'est la région où c'est que ça passe le film.
Et voilà. Fait que c'était rendu mon tour et oui. Je parlerai pas de Paz de 1997, film dans lequel le chien.
Hey Tommy, si t'en parles, ça compte comme ton tour.
En plus, t'as pas rapport, on est dans 2010.
Je sais. C'est pour ça que j'en parlerai pas. Il okay. parle avec la voix de Billy Connolly.
Ok, c'est bon,
le
vas-y.
Chien. Ok. Non, mais en fait, si on parle de réalisateur encore, moi, je vais y aller pour Panos Cosmatos. Il y a deux films. Hein, c'est.
Ouais.
2010, Beyond the Black Rainbow, puis Mandy en 2018. Moi, ça m'a brassé. Là. C'est du traitement de l'image que je vois là. C'est unique. Il y a un style visuel, une facture Panos Cosmatos qui existe en si peu de film. Ouais. Là, c'est assez capoté. Là, c'est,
ouais. C'est... Moi, il fallait qu'il ait fait, mettons, 3 films pour mettre ça dans les...
Ouais, lui, il y a des règles. Il faut qu'il ait au moins fait 3 films, puis il peut pas ressembler à Quentin Tarantino.
Non, non, j'ai beaucoup aimé ces 2 films-là, j'ai rien à dire. Ouais. Je pense que c'est un cinéaste intéressant, mais avant... T'sais, je sais pas, t'sais, il a comme fait un film en 2010 puis l'autre en 2018,
ouais. Andy. C'est un capable. C'est un capable. Puis c'est 2 bons films. Fait que,
c'est sûr que ça ressemble pas à ce que son père faisait. Ça, c'est sûr. Mais bon.
Non, il fait juste utiliser les contacts. Mais pas Andy, la technique.
D'ailleurs, qui est aussi probablement dans mon top de mon...
Aïe, c'est capoté, c'est fou, un film d'action gore basé sur ses dialogues. C'est hallucinant.
Mais en même temps, c'est pas comme un film d'action parce qu'il se passe à rien les 50 premières minutes.
Effectivement.
Ouais, t'es tellement pas film d'action, ça capote après.
Non, c'est juste, c'est juste fascinant, en fait. Oh, ouais. C'est vraiment juste un film.
Oh, c'est un film de trip avec la musique de King Crimson et tout.
Le bout que le méchant brainwash, là, que tu sais, ils mettent sa face en fondu enchaîné en miroir, là, fait que il change, mais il a pas l'air de changer, là, fait que c'est tout fait en longueur, puis je me rappelle, tu sais, des fois, c'est le genre de film comme Beyond the Black Rainbow, beaucoup, que tu peux mettre en background, le volume baissé, tu mets des tunes par-dessus, ça te fait une ambiance de party super fuzzée, puis c'est ça, j'avais fait ça cette fois-là, je me rappelle, on jouait à Magic, puis à un moment donné, je faisais, hey, c'était à qui, puis c'était pendant le speech du gars, puis il y avait 6 adultes qui étaient il comprenait même pas ce qu'il disait. C'est capoté, puis la manière que c'est monté aussi, que comment j'avais wordé ça, j'avais dit que Nicolas Cage, à un moment donné, il faut qu'il devienne comme le diable utile à de la righteousness, tu sais, à un dieu qui avait perdu le contrôle, tu sais. Puis le dernier plan avec les planètes quand ils volent dans le char, man, c'est hallucinant, ce film-là. C'est vraiment, vraiment bon.
Ah, c'est sûr que l'enquête de Nicolas Cage est très messaïque dans le sens juif du terme.
Exactement. Il est l'autre côté de la médaille qu'il faut qu'il vienne faire le ménage. Quand le boss de la secte, à la fin, il fait un speech là, qui sait qu'il n'y a plus rien pour l'arrêter. Il peut juste comme crier après. Tous les points que lui va faire, ça va juste être... Ça va avoir des répercussions quand il sera plus là, puis on dirait qu'il sent, là, tu sais. Ah, c'est, ouais, ça me fait capoter.
En plus, il y a Bill Duke.
Oui.
Cook dans Commando.
Il est de retour. Puis il y a un combat à Chainsaw. C'est capoté.
Le meilleur combat à Chainsaw depuis Texas Chainsaw Massacre 2.
Genre, là, moi c'est un des. Je sais pas. Non, mais il n'y a pas souvent.
Moi, je pense que c'est mon préféré duel de Chainsaw que j'ai vu dans ma vie.
Puis en plus, lui, il arrive, il est comme brainwashé, là, il a craint que ça marche pas. Là, il se lève, puis là,
il sort la chaîne.
Le plan, c'est ça. Le plan est fait pour que tu te dis, ben là, ça va finir bientôt. Puis immense, sa chaîne, ça. Puis Chris, il avait juste à prendre à être avec Nicolas Cage, parce que c'est Nicolas Cage qui déchire. Chris de bon film. Puis Beyond the Black Rainbow. J'ai écouté, mettons, Mandy 2 fois, puis Beyond the Black Rainbow 5-6 fois.
OK.
Puis je l'aime un peu plus à chaque fois. Il y a le personnage, il y a le héros qui est le protagoniste qui est comme méchant. Mm-hmm. Là, c'est tellement tragique, son histoire. Puis à toutes les fois, je comprends que le boss de la secte, qui est comme, tu sais, son paternel, à qui il ment, mais c'est pas son paternel, son patriarche.
Mm-hmm.
Je comprends à quel point il a comme semé des graines qui sont en train d'éclore. Tu sais, c'est super contemplatif, puis il y a pas vraiment de surprise si t'écoutes bien les dialogues. Genre.
Ouais.
Puis moi, j'aime ça, un film de même, que quand tu le réécoutes une autre fois, les dialogues prennent un vernis qui est comme plus...
C'est plus, il y a plus une vague expérimentale aussi dans The Black
Mirror. Officiel.
Il y a quand même une ligne narratrice, puis c'est comme un peu un film de vengeance, le Mandy, on s'entend. Là. Mais alors que l'autre, c'est pas ça. Là.
C'est un film de vengeance aussi, parce que c'est un gars qui est tanné de pas avoir ce qu'il pense qu'il mérite.
Ouais.
Ouais, c'est vrai. Mais mettons que le traitement aussi est comme moins.
Le traitement narratif est mince, en fait, parce qu'il se concentre vraiment plus sur le storytelling visuel, les ambiances.
Ouais, c'est du word
pour building, donner un là. Feeling plus qu'un ouais, plus qu'une capoté, histoire.
Là. Ouais, même il y a de quoi rajouter là-dessus. Là. Le peuple qui habite dans. C'est comme Toulouse sans l'être. Là. Ouais. HP, HP Lovecraft, mais level plus. Là. C'est, j'ai trouvé ça. Les deux. Puis j'ai hâte à son prochain. S'il a besoin de 40$, je pourrais l'aider facile. Là. Ça me fait plaisir. Panos, tiens, c'est ouais, pas ton c'est... email, moi t'as envoyé. Ouais. Fait qu'en tout cas, voilà, on fait un dernier tour pour ce show-là.
Ben oui, certainement. Si on continue avec du monde, moi de toute façon, j'allais parler du film que j'ai regardé le plus dans les années 2010.
Spymate.
Non. pas nécessairement le film que j'ai regardé le plus dans les années 2010, mais le film des années 2010 que j'ai regardé avec le plus de reprises. Et c'est un film d'une personne qui sévit depuis plus longtemps que les années 2010, mais qui a commencé à être un réalisateur dans les années 2010.
Ah.
Alex Garland.
Ooh,
et oui, le film que j'ai regardé le plus de les années 2010, c'est Dread.
Ah oui.
C'est un film que Alex Garland a scénarisé et, selon les dires de tout le monde qui ont travaillé sur le film, également réalisé.
Okay.
Mais parce qu'il avait engagé un réalisateur, puis qu'il y a la Directors Guild, etc., ils ont été obligés de lui créditer le film, même si, en gros, c'est Alex Garland qui a réalisé ce film-là.
Mais donc, ça ressemble à quoi un plateau de tournage que ça arrive?
Ben, ça veut dire qu'il n'y a plus personne qui fait confiance au réalisateur, puis tout le monde parle au scénariste producteur à la place.
Oh, hey, l'ambiance.
Ouais.
Ouf.
Ouais.
souvent, c'est. Malheureusement, souvent, ça donne des mauvais films parce que justement, il y a des
tensions,
le monde sont divisés. Genre, le meilleur exemple, c'est un peu, mais d'ailleurs, il est parti, là, mais il a été changé son nom, mais Monsieur Richard Stanley dans Island of Dr. Moreau. Clairement, après quelques jours de tournage, ils se sont rangés de l'autre camp à tel point que les producteurs étaient obligés d'engager un autre réalisateur parce que Stanley ne se présentait même plus au tournage.
Mais dans ce cas-ci, je ne sais pas exactement ce qui est arrivé avec le réalisateur comme tel, mais en bout de ligne, ce que tout le monde qui a travaillé sur le film dit, c'est que c'est sa première réalisation réellement.
Et sinon, Dread, c'est awesome.
Et sinon, Dread, c'est un autre Tower Defense movie, comme on en parlait la semaine dernière. C'est un film de... Et puis là, mettons, c'est un film que je pourrais facilement comparer à un autre chef-d'œuvre du cinéma d'action qui est sorti dans les 10 dernières années, Mad Max Fury Road. C'est deux films qui sont extrêmement intelligemment construits. C'est des films d'action dans lesquels l'histoire passe par l'action, donc des bons films d'action. Et moi, je le sais que j'ai comme, il y a comme une partie de mon cerveau qui dit Mad Max Fury Road, c'est comme objectivement un meilleur film que Dread. Mais moi, je préfère Dread entre ces deux films-là.
Je pense que Dread est meilleur, objectivement.
Moi, j'ai pas trippé sur Mad Max Fury Road. Personnellement, je trouvais que c'était un gros spectacle de 175 millions, mais je sais pas, j'ai pas... Je préfère Dread, mais en même temps, j'aime mieux The Raid que Dread.
C'est sûr que The Raid 2 va être dans notre top 10 à tout le monde.
Il y a tout un peu ce filon-là. Mais Dread, j'ai beaucoup aimé, mais je ne l'ai pas vu souvent.
Aïe, man, moi, le bout qui dit Wait, là.
Ben, moi, je.
Il y a tellement de scènes fortes là-dedans. Il y a amené des poids psychiques un petit peu.
C'est vraiment cet aspect-là.
D'ailleurs, je me suis dit, Pete Travis, il me semble que
c'est
le gars qui a fait un film avant, Vantage Point, qui est un film
qui est un petit peu
puis il a fait un autre film après qui n'a pas été très bien reçu, fait que je pense que c'est vraiment
il y a des bonnes chances
c'est ça, que ce soit Garland qui a réalisé.
Puis Garland, après Dread, nous a offert également Ex Machina, qui est un des films les plus années 70, qui est sorti dans les années 2010.
Même le design était années 70.
Tout filait années 70. C'est un film dans lequel il se passe rien.
Que Skynet gagne.
mais c'est vraiment... Il y a rien de... Il y a elle. Il y a le personnage du robot qui est un effet visuel tout le long. Mais dans le reste du film, il y a rien qui tape à l'œil. Il y a aucun moment où il essaye de t'impressionner avec sa direction visuelle. Il est juste vraiment très très bon pour placer sa caméra à bonne place pour raconter l'histoire.
Puis dans une histoire très tight dans un
environnement aussi qui raconte une histoire. Puis vraiment un super bel environnement. Toujours bien filmé, on comprend tout le temps où est-ce qu'on est, on comprend tout le temps la signification de chacun des endroits.
Ouais.
Puis
les deux, parce que le méchant de la fin, il a tellement l'air, il projette pas ce qui est, puis le héros projette pas ce qui est non plus, là, dans le sens qu'on dirait que c'est difficile de se faire à l'idée de se construire un pattern des trois personnages impliqués. T'en viens même à un moment donné à penser que le robot, c'est peut-être le gars qui est en train d'interroger le robot. Puis
La fin du film comme tel, c'est pas vraiment important. Dans le fond, le but du film, c'était plus de faire une espèce de... C'est un Turing test poussé à l'extrême.
Une crise de belle réussite.
Ouais,
un petit bon film. C'est sobre. Oui, checker ça. Ouais. Puis c'est quoi qu'il a fait après?
Puis après ça, il a fait Annihilation, que beaucoup de gens ont...
Moi, j'ai encore pas aimé ça. Ben, j'ai aimé Ex Machina, puis Dread aussi, que
je pense que...
Mais Annihilation, c'est un film que moi j'ai beaucoup de réserves, mais que j'ai pas aimé.
Moi aussi, j'ai beaucoup de réserves avec Annihilation. Mais moi, personnellement, en fait, et c'est peut-être particulier, en fait, parce que quand tu regardes le reste de son cinéma, on dirait que ça a pas lieu d'être, mais mon problème principal avec Annihilation, c'est les dialogues, en fait. Je pense que ça va
dans l'esprit du film, mais moi, pour qu'un film j'accroche un peu, il faut quand même que les personnages m'intéressent.
Puis je pense que ça passe beaucoup par à quel point tout sonne un peu faux, en fait.
Il y a beaucoup de questions en partant.
Moi, la finale m'a pas mal achevé. Là, ça m'a pas mal fait chier qu'elle utilise la violence pour tuer l'entité qui était comme en train de grandir. Moi, c'était pas le message que j'avais compris. Là. J'avais comme l'idée que c'était de la cohabitation, puis une entité qui se défendait en réalisant les souhaits de ceux qui voulaient l'attaquer, mettons. Puis là... la forme qu'elle prend, c'était pour lui faire plaisir et tout, puis en même temps, je pense qu'elle le feu dedans.
Mais en même temps, je pense que moi, de la manière que je vois la fin, puis je l'ai regardé une deuxième fois. Je pense que il y a comme quelque chose que j'ai vu que j'avais pas vu la première fois. Parce que à la fin, le film te dit un peu, dans le fond, ces personnes-là sont assimilées. L'histoire qui a été racontée, c'est pas ce qui est arrivé pour vrai. Puis la fin, c'est sûr que c'est une invention narrative du personnage qui veut se faire passer pour un humain qui a réussi à s'en sortir sans être assimilé. Mais dans le fond, elle a été assimilée, mais l'assimilation, comme tu dis, c'est plus une affaire de perméabilité,
c'est
plus une affaire de... C'est pas...
comme dans Solaris un peu.
C'est pas j'ai pris le contrôle, c'est on est devenu la même chose.
C'est ça.
Puis je pense que c'est ce que le film essaye de dire à la fin, mais c'est sûr que je pense que parce que le film n'est pas très long, il se permet pas d'explorer certains de ces aspects-là.
Lui, il va savoir, il va avoir un director's cut qui va sortir, c'est sûr.
Mais d'ailleurs, c'est basé sur une série de livres.
Une série?
Ouais, c'est basé sur... Annihilation, c'est le premier d'une série de trois livres.
OK.
Donc, je pense qu'il était supposé de peut-être faire la suite.
Je pense que ça
mais ça l'arrivera pas parce que ça a pas pogné.
C'était allé rapidement sur Netflix.
Moi, mon gros problème, c'est que je trouvais que ça faisait penser à plein d'autres films que j'avais vus, mais tu sais, ça, en général, c'est pas un problème. Mais des films, selon moi, beaucoup plus le fun à regarder, est supérieur. Comme
la campagne de Purge,
il y avait aussi beaucoup de things aussi, puis la vibe aussi. Fait que je sais pas. Puis comme
vrai.
Je te dis, à cause des personnages, moi souvent c'est quand même la, tu sais, je peux faire la différence entre un film que je vois vraiment triper ou un film que je vois admirer pour d'autres qualités. Mais un film va me faire triper, c'est que les personnages vont m'en faire embarquer, puis je vais carry vraiment beaucoup pour eux autres.
Mais c'est peut-être
ce film-là, ça,
Natalie Portman aussi est un peu lame.
Ben ça dépend en quoi, mais je pense que en bout de ligne c'est un peu ça, c'était beaucoup ça souffrait un peu en fait du problème gens intelligents qui font des affaires connes.
Ouais, c'est sûr.
C'est parce que c'est supposé d'être des scientifiques.
Puis ça prend deux minutes, puis ils se chicanent, enlevez vos masques.
Il y avait vraiment ça, je pense, qui faisait que moi. Puis un de mes gros pet peeves. S'il vous plaît, arrêtez de faire ça. Si vous écrivez des films, si vous écrivez de la littérature, si vous avez un scientifique dans votre film ou dans votre livre et qu'il est en train de parler d'une hypothèse, s'il vous plaît, faites-lui pas dire théorie.
Ouais, j'ai une théorie, j'ai une hypothèse.
Une théorie, c'est prouvé scientifiquement. Une théorie, c'est un outil pour trouver d'autres théories. Ouais, c'est pas une hypothèse. Mais
en fait, pour essayer des hypothèses... effectivement, qu'ils font ça dans les films.
Ouais.
Ben, fait que sinon, toi, Alex Garland.
Alex Garland, je suis excité pour la suite. Je l'aime bien comme romancier aussi. Je conseille ses livres si jamais il y a des gens qui sont intéressés. Coma, un excellent livre. Et The Beach aussi, qui avait été adapté au cinéma
par Leonardo DiCaprio.
Mais le livre est surprenamment, parce que ça n'arrive jamais. Cette fois-ci, le livre est meilleur que le film.
Ben, le film est un peu lame.
Puis le livre
est bon.
Est bon.
Et voilà. on a le temps. Let's go, Pascal.
Ben, j'irai pas avec mes tops tantôt, même si je les ai effleurés un peu. Là.
Vrai que tu nous as.
Taquinons la planète. Puis là, je vais y aller, mettons, avec deux films vite. Que des réalisateurs que je m'attendais pas qu'il l'avait encore. Genre,
okay.
Deux vétérans, mais c'est First Reformed de Paul Schrader.
Ouais.
Puis l'autre, c'est Elle de Verhoeven.
Ah ouais.
Surtout qui a été tourné en France en plus.
Ouais.
Puis que c'est deux films qui font partie de mon top 30. Okay. J'ai adoré les deux. Des cinéastes de 70 ans, comme quoi que quand tu travailles un peu hors des normes d'Hollywood, t'es encore capable de faire de l'excellent cinéma.
Bon, ben, allez voir si j'ai vu ça. Totalement. Moi, je trouve que, ben, tu sais, c'est sûr que First Reform, puis même Paul Schrader, il se l'est avoué. Là, c'est un peu comme. C'est un remake de Taxi Driver.
Ouais.
Mais c'est un remake de Taxi Driver
refait par Bresson maintenant.
Mais ouais, c'est ça, mis au goût du jour puis mais c'est un petit peu le même character arc à la limite, ouais. Là, on pourrait dire moi aussi j'ai beaucoup été impressionné par ce film là je pense que je suis un gros fan de Martin Scorsese. Shoot Me Someone. Je pense que Taxi Driver, c'est un chef-d'œuvre.
Dans mon top 10,
c'est vie. Fait que c'est sûr que quand j'ai regardé ce film-là, je pouvais pas m'empêcher de voir ça, mais en même temps, j'ai trouvé que la fin était tellement intéressante et surprenante.
Les 30 dernières minutes sont vraiment, vraiment, vraiment ce qui a été fait de plus beau dans les années 2000.
C'est vraiment un film très solide, très beau, avec un,
très austère,
un beau
très
casting sable, aussi. Puis
moi,
casting,
Ethan Hawke, je suis pas un gros fan. Je trouve qu'il a toujours tendance à jouer avec ses
tics nerveux. Qui ça? Ethan Hawke.
Ouais, avec ses tics nerveux ou quelque chose comme ça. Il a toujours tendance à en mettre
peut-être un peu trop. Puis il la joue restreint, solide, réprimé.
Il la joue Jean-Paul Belmondo dans Les Longs Morins Prêtres.
Ouais, vraiment. C'est un excellent film.
Comment t'as dit que ça s'appelait, ça, là?
First Reformed.
Okay. Ouais.
Puis l'autre aussi, c'est Verhoeven qui est un petit côté, qui revient peut-être à son petit côté provocateur avec la meilleure actrice au monde, selon moi. C'est plate pour Tilda Swinton, mais pour moi, Isabelle Huppert demeure la meilleure actrice au monde présentement. Puis là, elle est parfaite dans ce rôle-là.
Ça
commence avec une scène de viol humoristique, faut le faire.
Ouais.
Tu l'as vu?
Je fais une recherche dans mon document de critique que j'ai écrit L. Oui, ça. Ouais. Je fais ah non, ça ne marchera pas.
C'est pas la lettre, c'est E-L-L-E.
Ouais, ouais, c'est L-E-L-L-E.
Puis c'est pas le film avec Dudley Moore qui était quand même drôle en français. C'est ça.
C'est très. Très particulier ouais. comme film. Je pense pas que Paul Verhoeven a jamais perdu son cynisme puis son
satire. Mais c'est juste que.
Mais là, il est vraiment, vraiment mordant. Il est
vraiment en forme encore à 78 ans.
Et extrêmement, extrêmement politically incorrect.
Ouais, oui,
Et pertinent, pas et juste pertinent. Comme joke ouais, de ouais. pète, mais tu sais.
Pertinemment politically incorrect parce que c'est un film qui parle. C'est un film. Dans lequel la toile de fond est le viol.
Ouais.
Mais c'est pas un film qui parle de viol.
Viol, non. Elle va régler ses comptes avec ben du bon don avec son père, entre autres.
Ouais.
Genre le viol est un trigger.
Est un trigger. Ouais, exactement. C'est comme si tu découvres un univers de problèmes personnel et interpersonnel
ouais.
Après qu'une personne se fasse violer, se soit fait violer et puis il y a aucun moment où est-ce que le film te dit c'est correct de violer du monde mais en même temps le film dit le film parle d'une de la vie d'une personne okay. autour d'un viol en fait
ouais, ouais.
Puis j'ai trouvé ça super super intéressant comme. Parce que c'est même pas. Le film ne prend pas vraiment position. C'est un film qui est principalement narratif, en fait. Non. T'sais?
Ouais, ouais.
Puis, fait que c'est juste. C'est un film qui te présente une situation possible qui pourrait arriver, dans laquelle il y a eu un viol, qui a été le catalyste à faire partir un règlement de compte
ouais,
en série.
Ouais,
en
série. À plusieurs niveaux.
Ouais, c'est ça.
Je l'ai noté, elle, de Paul Verhoeven. On est en quelle année?
On est en 2018?
17? Non, 16 peut-être.
16 peut-être.
Ouais, ouais, en tout cas, mais plus vers la fin ouais. de la décennie. Mm-hmm. Parce que d'habitude,
c'est
ton top,
c'est
parce que juste le début.
Depuis La Pianiste, okay. selon moi.
OK.
Ah, c'est un grand film.
Ouais.
Oh, moi aussi, il était dans ma liste ouais. de films.
Fait que toi, c'est correct pour ta tranche,
oui,
là?
Je pense que
ouais, ça veut dire qu'on a fini, Tommy?
Ben non, il m'en reste un à
ben
moi.
Ben non, parce que t'as commencé.
C'est toi qui as commencé.
Non, c'est toi qui as commencé avec les bougons.
Mais ça avait pas rapport avec 2010?
Hey, hein?
Ok, c'est correct.
On a fini.
On a fini pour cette semaine. Fini l'émission, c'est tout qui anime.
Ah oui, c'est vrai. Alors, merci d'avoir été avec nous à Critique Exquise en cette semaine du date de cette semaine. Et on espère que vous allez venir nous revoir. C'était Bruno Corbin en compagnie de Tommy Godette et Pascal Grenier.
Et oui.
Et on vous invite à aller sur podcast.com, aussi. Visiter douteux.org et à aussi
venez nous voir les
lundis. Masturber plus que 3 fois par jour. Parce que ça peut à un moment donné être irritant.
Ben aussi, il faut sortir de chez soi.
Exactement.
Oui. Venez voir les bons films le lundi qu'on présente.
Ben
aussi,
oui,
douteux, là, tard le soir,
ben
peut-être
oui.
un peu, mais ça vaut la peine. On
effectivement,
des très belles perles.
Effectivement, oui.
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 Bonne soirée.